Tous ici, nous voudrions sans doute un monde de paix. Il se trouve que le monde est dans l'état où il est.
Je ne joue pas sur les mots, je dis quelque chose de très précis.
Les choses ne vont pas se faire comme ça.
On vous licencie pour quelques années, puis vous reviendrez plus tard.
Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire.
Nos salaires ont baissé d'environ 25%.
Score maximum. Ça, c'est bon.
Chaque jeudi, à midi, retrouvez la rédaction de l'hebdomadaire Politis pour une chronique indépendante et engagée sur l'actualité politique et sociale.
Et on retrouve maintenant Ingrid Merckx, journaliste à Politis. L'hebdomadaire, cette semaine, titre sur sa une « Les nouveaux justes, ils bravent les lois anti-migrants ». Ces nouveaux justes sont l'objet d'un dossier dans les pages de Politis cette semaine. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Alors, qui sont ces nouveaux justes? Je crois que c'est une référence historique, déjà. C'est ce qu'on peut souligner.
Oui, oui, bah, tout à fait. Bah, en fait, le terme « les justes » fait référence aux gens, aux anonymes, aux personnes qui ont caché, aidé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette appellation est encore débattue. C'est-à-dire que parmi les gens qui aident les migrants aujourd'hui, il y en a qui se reconnaissent dans cette appellation et il y en a qui s'y reconnaissent pas parce que, si vous voulez, elle a une coloration un petit peu héroïque. Parce qu'évidemment, il y a un grand danger derrière qui était celui de la guerre à l'époque. Et cette connotation héroïque, les gens qui aident les migrants aujourd'hui ne s'y retrouvent pas complètement parce que, pour une raison simple, c'est que la plupart, ils font ça non par héroïsme, mais parce qu'ils trouvent ça normal, en fait, par humanité, parce que en gros, il y a des migrants par terre sur le trottoir devant chez eux et que il leur offre le gîte et le couvert, ou parfois juste le couvert, parfois juste le gîte, parfois juste un coup de main, parfois voilà. Et alors donc cette appellation, c'est un peu polémique, mais nous on avait envie de la reprendre. C'est pour ça qu'on a dit les nouveaux justes, hein. On a eu envie de la reprendre parce que c'était aussi pour saluer tout ce travail et toute cette solidarité qui se met en place un peu pour pallier les manques de l'État quand même, hein, il faut le dire.
Exactement. Nicolas Dupont-Aignan n'est pas injuste parce que lui, il veut juste recueillir les gens et les virer, hein. Donc ça, il a été très remarqué. Encore une fois, j'allais dire dans les médias, mais en tout cas, il y a des justes sincères. Je pense à Teresa. Il y a des portraits dans ce dossier que tu as coordonnée, Ingrid. Mama Teresa, une perpétuelle indignée, c'est à Nice, qui est pourtant, comme indiqué dans cet article, un berceau de la droite dure. Il y a des initiatives citoyennes, justement, des gens qui agissent, qui se dressent contre l'injustice et le sort réservé à ces migrants, au péril de peine de prison, d'amende. Cédric Héroux, par exemple, est une figure médiatique, justement, mais ces gens-là, ces justes-là, prennent un vrai risque.
Oui, alors sur la question du risque, j'y reviendrai, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que en fait, des justes, il y en a toujours eu. Et toujours eu des justes qui œuvraient dans l'ombre, des anonymes. Moi, je pense notamment à la création du réseau Éducation sans frontières en 2004. Des gens qui aident les migrants, ça se fait depuis toujours. Et des gens qui ont pris des risques au regard de ce qu'on a appelé le délit de solidarité qui a été créé par le CESEDA, donc le code d'entrée et de séjour des étrangers en France. C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, où là, les gens risquaient des peines de prison pour avoir hébergé des migrants. Ça, c'était adouci, entre guillemets, sous Manuel Valls. Donc, l'aide au séjour n'est plus interdite, mais ce qui reste interdit, c'est en fait des aides assez floues. C'est-à-dire que, par exemple, transporter des migrants dans sa voiture peut être répréhensible au regard de la loi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que des justes, en fait, il y en a toujours eu. Alors, nous, on a fait quelques portraits parce qu'effectivement, il y a des personnalités qui ont commencé à émerger depuis quelques années, alors que jusqu'à maintenant, toutes ces justes, ne voulaient pas personnaliser leur combat au quotidien. Ils voulaient pas tellement qu'on parle d'eux, ils voulaient pas tellement apparaître nommément, etc., etc. Et là, il s'est passé quelque chose qui s'est renversé, je pense. D'abord, il y a eu des affaires judiciaires, donc Cédric Herrouz, vous l'avez cité, et ça en a fait des figures emblématiques de ce combat, mais aussi les gens qui mènent ce combat au quotidien, je pense qu'ils se sont dit qu'il fallait commencer à incarner ce combat pour peut-être, c'est une forme de politisation, enfin de changement d'échelle de cette politisation, parce que en gros, plus on en parle, plus ils sont nombreux, plus ça se massifie, et peut-être aussi plus les justes sont nombreux.
Oui.
Ça c'est. Donc voilà. Donc on est toujours sur une ambivalence entre personnalisation de ces combats et en fait tous ces anonymes, anonymisation, parce qu'il y a de plus en plus de gens et beaucoup d'anonymes derrière Cédric Herrouz qui dans la vallée de la Roya, à Calais, à Nantes. Qui viennent en aide aux migrants.
Alors Oui, on est toujours avec Ingrid Merckx, c'est la chronique de l'actualité politique et sociale, et on revient sur cette une de Politis cette semaine, qui est aussi l'intitulé du dossier très complet, hein. L'intitulé, c'est « Les nouveaux justes, ils bravent les lois anti-migrants ». Il y a ceux qui témoignent, donc un personnage, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer à Nantes, justement, c'est Philippe Vanson, lui, il a tenu un blog, il a été pendant 8 ans auprès des migrants, du côté de Calais, lui aussi, c'est injuste, en quelque sorte, parce qu'il témoigne notamment des violences qui peuvent être faites à l'égard des migrants. Il fait partie de ces gens-là, de ces justes-là.
Tout à fait. Alors, nous, il y a quand même quelque chose, en tout cas moi, dans mon article, sur lequel j'ai voulu insister, c'est en finir en fait avec la distinction entre les migrants et les réfugiés. Elle est parfois faite de bonne foi, cette distinction. Souvent, d'abord parce que les migrants désignent des gens qui migrent. Donc, parmi les réfugiés, enfin les réfugiés sont des migrants, si vous voulez. Après, quand on regarde le statut juridique, tous les migrants ne sont pas réfugiés, au sens où tous ne rentrent pas forcément dans les critères du droit d'asile, parce que ils n'ont pas forcément fui telle persécution. Mais en fait, cette distinction qui est faite parfois pour protéger le droit d'asile et ce qui cette distinction est assez pernicieuse parce que elle est ancienne. Dans mon article, je rappelle la référence à la Révolution. Mathilde Larère, l'historienne, dit que c'est une distinction qui remonte à très loin. Parce qu'en fait, cette distinction, elle vise à séparer, si vous voulez, les réfugiés des migrants, donc les bons réfugiés entre guillemets, et les mauvais migrants qui seraient des migrants économiques. Oui. Mais est-ce que cette distinction, elle a encore un sens aujourd'hui, alors que finalement tout les migrants fuient la guerre, la misère, le réchauffement climatique. Voyez, avec toutes ces catastrophes en cascade qui sont souvent liées les unes aux autres, elle n'a plus de sens.
Complètement. Et je me souviens que dans les années 70, on parlait des réfugiés du sud-est asiatique, on ne parlait pas des migrants, effectivement. C'est un terme qui stigmatise justement les personnes qui sont contraintes pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques à fuir leur pays, mais ça reste une contrainte, quel que soit le cas, effectivement.
Gérard Collomb... Disons que les gens qui disent réfugiés aujourd'hui, souvent, en tout cas quand c'est des membres du gouvernement, c'est pour restreindre les migrants aux personnes qui ont obtenu le droit d'asile en France, c'est-à-dire une petite partie des migrants. Et on voit bien que l'idée derrière ça, c'est de restreindre l'accueil, c'est-à-dire d'exclure toute une part des migrants, une grande majorité, de l'accueil et des structures d'accueil en France. Donc que ce soit les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, que ce soit les aides de beaucoup de dispositifs finalement. Et que deviennent les autres? Alors ça...
Oui, complètement. On est toujours donc avec Ingrid Merckx, journaliste au sein de la rédaction de Politis. On parle donc de ces nouveaux justes, de ce dossier, de cette une donc qui a trait évidemment aux migrants, migrants et réfugiés. Effectivement, c'est un peu de sémantique là-dessus. Alors, j'en reviens à ce qu'a annoncé mi-décembre Gérard Collomb, hein, le ministre de l'Intérieur du gouvernement Macron, concernant notamment la réduction de la durée de la demande d'asile et par ailleurs l'augmentation du délai de rétention qui va s'allonger. Là, ça participe là aussi d'une plus grande répression à l'égard des migrants, objectivement.
Oui, alors nous on a eu envie de faire ce dossier, on en avait envie depuis longtemps, même si c'est des, on a parlé de ces situations dans plusieurs dossiers différents. On a eu envie de le faire parce qu'effectivement c'était, on avait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se massifiait, que ce soit dans la prise de conscience, mais également dans l'accueil. Il y a de plus en plus de gens qui accueillent des migrants ou qui s'occupent de migrants dans leur vie quotidienne. Mais là, si on a fait ce dossier à ce moment-là, c'est aussi parce que le contexte se durcit depuis cet automne où Gérard Collomb avait en effet annoncé une prochaine loi sur l'asile et l'immigration. Cette loi, elle a fuité dans la presse la semaine dernière par l'intermédiaire du Justice, qui en a fait sortir quelques éléments. Et le président de la CIMAD a dit que c'était encore pire que ce qu'il craignait. Donc effectivement, c'est ce que vous disiez. D'une part, les périodes d'instruction des dossiers vont se réduire. Les délais d'instruction des dossiers vont se réduire, c'est-à-dire que les gens vont avoir de moins en moins de temps pour déposer leur demande d'asile. Or, on sait que des gens qui arrivent en France, qui ont traversé les mers ou les montagnes, ils sont dans un état psychologique et physique tel que ça leur prend du temps de déposer une demande d'asile, de monter leur dossier, de trouver les personnes qui vont les aider, etc. Donc, plus on réduit ce temps, et moins ils ont de chances de constituer un dossier qui pourra passer. Et donc ça, c'est pour la demande d'asile et pour la suite, c'est-à-dire au cas où la demande d'asile est rejetée et que ces personnes sont priées de quitter le territoire, dans le cas où elles font obstruction, c'est-à-dire dans le cas où elles refusent de quitter le territoire, elles sont placées en rétention. Mmh. Et ce délai de rétention, effectivement, va s'allonger également, donc qui passe de 45 à 90 jours, et c'est une période qui sera renouvelable 3 fois, donc qui peut s'étendre jusqu'à 135 jours.
C'est fou, et c'est pas le Club Med dans les centres de rétention administrative. Je renvoie d'ailleurs au travail qu'on avait fait, Jet FM et la CIMAD sur ces questions-là, et les témoignages de bénévoles justement qui essaie d'aider les migrants au sein de ces CRA, comme on dit. Bon, tout ça, ces annonces gouvernementales ou colombiennes, au sens de Gérard Collomb, bien, fait pas l'unanimité, on n'a pas trop le temps de s'étendre, mais au sein de La République En Marche, eh bien, il y a des voix qui s'élèvent. Ceux qui ont du mal à marcher avec Collomb, c'est d'ailleurs un article signé Michel Soudet, qui fait partie de ce dossier consacré à ces nouveaux justes, hein, pour reprendre l'intitulé de la une, et de ce dossier Ingrid Merckx. Je renvoie donc à la lecture de Politis, aussi à l'édito de Denis Seffer, le directeur de Politis, et plus largement aux pages culture et autres de cet hebdomadaire, et au site internet également. Dernière petite question, plus légère, Ingrid, quand même. C'était la fête hier à Politis, c'était la fête des 30 ans de cet hebdomadaire que nous, on aime particulièrement ici.
Bah oui, merci Pascal. Effectivement, Politis a fêté ses 30 ans hier soir. Alors le premier numéro, il y a 30 ans, enfin le numéro 0, était sorti un petit peu plus tôt, au mois de janvier. Là, on l'a fêté la semaine dernière. Donc avec ce dossier, nous on était assez contents. 30 ans pour un hebdomadaire, c'est quand même pas rien.
C'est beau. C'est beau. Eh bien, bon anniversaire. Et je pense que j'irai dans quelques semaines aller vous faire un coucou là-bas. C'est, voilà, dans le 11e, où vous êtes à Paris.
Avec grand plaisir.
Voilà, très bien. En attendant, je renvoie à la lecture de Politique. Vous trouvez dans chez tous les marchands de journaux dignes de ce nom. Sinon, vous pouvez vous abonner. C'est sans doute la meilleure façon de soutenir la presse indépendante, parce que Politique, c'est un média indépendant et ils ne sont pas légion. Merci à Ingrid Merckx pour sa disponibilité, son éclairage sur les pages de Politis, et ce dossier très complet à retrouver.
Merci beaucoup, Pascal.
Cette semaine.